Tous les troisièmes mercredis du mois sur les ondes de Radio FM+, retrouvez Sous le pavé, le Récif, une émission interassociative co-construite avec les membres du Récif et du pavé.
Alors bonjour à tous et bon retour sur notre émission Sous le pavé, le Récif, depuis la radio associative FM+. Moi je suis Maëlle et je suis membre active de l'association Le Récif et je serai votre animatrice aujourd'hui pour le troisième épisode de notre deuxième saison. Pour rappel, Sous le pavé, le Récif est une émission locale faite par et pour les habitantes du quartier. Notre but est de mettre en lumière les initiatives associatives, collectives et citoyennes. À travers cette émission, nous souhaitons aussi aborder des sujets de société en faisant un pas de côté et porter notre regard sur ce qui se fait localement, près de chez nous. Les sujets traités sont alimentés par les expériences vécues mises en commun grâce au tissu de liens que nous avons créés et que nous souhaitons voir perdurer. Chaque épisode de notre émission aborde des thématiques différentes, avec des gens différents. Alors on va commencer par un tour de table, afin de présenter l'équipe du jour, car les auditeuristes ne peuvent pas nous entendre, mais nous sommes très nombreuses.
Daniel, pour la première fois avec vous.
Marie-Joseph, je fais partie de l'association Pavé.
Anita, je fais partie de l'association Le Récif.
Moi c'est Tiffen, je fais partie de l'association Le Récif.
Et moi je suis Eliane, je fais partie de l'association Le Pavé.
Super, merci beaucoup. Pour rappel, les deux derniers épisodes, on avait parlé de bénévolat et de citoyenneté. Et aujourd'hui, on change de cap et on va parler de santé et de bien-être. Cette émission, elle sera composée de deux parties. Dans la première, on va plutôt aborder les différentes techniques personnelles qu'on a développées individuellement dans nos vies pour nous faire sentir mieux. Et ensuite, on va tenter de recontextualiser ces expériences et cette notion de bien-être et de santé afin de la mettre en lien avec la société, les changements sociaux, la médecine, etc. Première question, je suis curieuse. Quelles sont vos techniques individuelles que vous avez développées pour vous sentir bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites régulièrement en rapport avec votre bien-être?
Pour ma part, je disais que c'était beaucoup le dessin et me faire à manger, aussi beaucoup de courses à pied aussi le matin.
Moi, j'aime bien être dehors avec les autres. Donc j'aime bien être au jardin partagé. J'aime bien aussi faire du tai chi le dimanche matin. Et à ce moment-là, je peux observer la nature, les oiseaux dans les arbres, dans les beaux arbres, dans les beaux micocouliers du fond du parc.
Alors pour moi, c'est également la nature qui m'attire et qui m'apaise. Je vais au jardin de Pavé régulièrement. Effectivement, il y a plein de petits oiseaux. Ensuite, j'apprécie beaucoup tout ce qui touche à l'art création. Voilà.
Oui, pour moi, le bien-être, c'est un peu ambivalent. C'est aussi bien des rêveries, ça serait peut-être pas très loin du bonheur. Et là, c'est plus individuel. Et puis, il y a des aspects qui sont plus dans l'émotion, c'est-à-dire avec les autres, en groupe. Donc, j'oscille un peu entre les deux.
Ben moi, je te rejoins vachement, Marie-Joseph. Je trouve qu'il y a cette ambivalence entre le bien-être individuel qu'on s'accorde et que ce bien-être-là, on le trouve aussi dans le collectif. Donc, moi, je dirais que c'est un petit peu dans les deux que je le trouve. Autant dans la soirée cinéma bouillotte que dans aussi les projets en collectif, dehors, avec des gens, avec une émulsion collective.
Je rejoins pas mal ce que vous avez dit. D'ailleurs, hier soir, pour me préparer, je suis allée un peu sur Internet et j'ai googlé qu'est-ce que ça veut dire le bien-être. Et apparemment, c'est un ensemble de facteurs qui rejoint la santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi, l'harmonie avec soi-même et les autres. Donc en fait, c'est hyper complet. Mais je suis d'accord avec l'ambivalence de la thématique parce que assez rapidement, moi, j'ai cette image très basique d'une personne assise en tailleur qui va faire de la méditation. Et du coup, ça me ramène à un concept un peu bourgeois et blanc, mais on verra ça plus tard. Daniel, j'ai cru comprendre que tu avais une recette de savon que tu aimerais nous partager.
Oui, c'est mon ancien métier qui ressort. Alors, pour préparer du savon, c'est une réaction chimique, tout bêtement, appelée saponification à froid. Alors, votre laboratoire sera la cuisine. Sur le plan de travail, en pierre si possible, vous disposez les produits nécessaires. Les huiles végétales, la bouteille de soude caustique à 30... Alors, attention là, parce que dans le bricolage, on trouve des bouteilles de soude caustique liquide. C'est de l'hydroxyde de sodium. Et il ne faut surtout pas acheter le bicarbonate de soude. Hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, comme c'est un produit caustique, bien qu'il soit déjà dissous dans l'eau, il faut vous protéger les mains avec des gants et les yeux avec des belles lunettes en plastique enveloppante. Voilà. Alors, vous avez aussi besoin d'une balance de ménage assez précise, minimum le gramme près. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la saponification? Lorsqu'on mélange les huiles et la soude, la saponification à froid se fait. Alors, pourquoi on dit à froid? Parce qu'en fait, la température est à la température de la cuisine, entre 25 et 40 degrés, l'été par exemple. Comment procéder? Vous mettez sur la balance votre grand saladier en verre, Pyrex. Oui, si jamais ça explose à cause de la chaleur élevée, il vaut mieux qu'il soit en Pyrex. Vous le posez sur la balance et à chaque fois, à chaque opération, il faudra tarer pour remettre la balance à zéro. Alors, vous versez 325 g de soude caustique liquide à 30% et vous tarez. Vous ajoutez 375 g d'huile de coco que vous avez préalablement fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes, ça marche très bien, avec une puissance pas trop forte. Vous tarez, vous ajoutez 62,5 g d'huile vierge de ricin, vous tarez, et vous ajoutez 186,5 g d'huile vierge d'avocat, et vous tarez. Alors là, vous allez avoir un peu pifométrique, parce que le 0,5 g, pour les deux dernières mesures, ça va être à la goutte près presque. Hein. Donc il va falloir y aller très 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 doucement. Et pour finir, vous ajoutez de l'huile de citron, ou alors de l'huile d'ylang-ylang, hein, des huiles essentielles. Voilà, 20 g au maximum. Et vous pouvez colorer votre savon par un jus de betterave et du curcuma en poudre. Voilà, alors après, vous prenez votre mixeur et en avant pendant 20 minutes. Vous versez tout le mélange qui commence à passer de liquide à très crémeux dans un moule flexiplan, hein, un moule assez... style moule à gâteau rectangulaire, voilà. Et vous attendez au moins 24 heures. Et là, le savon se fige. Et alors, vous l'oubliez pendant 3 semaines. Et puis, vous coupez vos savons et c'est terminé. Alors, cette étape s'appelle la cure du savon.
Ben, merci beaucoup. Surtout, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, car l'épisode sera sur nos sites web respectifs, donc vous pourrez le réécouter et poser et prendre les bonnes mesures si la recette vous a intéressé. Est-ce que quelqu'un d'autre ici a déjà fait son savon, par curiosité? Jamais?
Non, jamais.
Pas le savon, mais la lessive.
Ah ouais, grave.
Et la lessive, c'est une manière très économique et écologique d'échapper aux produits de supermarché. Ouais. Et c'est très simple.
Oui, mais il faut toujours mettre des gants et la diluer dans l'eau, hein, même si elle est déjà liquide. Par contre, si vous utilisez les cristaux de soude que vous allez diluer dans l'eau, alors là, il y a de la chauffe quand vous faites le mélange. Hein. Faites très attention, c'est pour ça qu'il faut mettre les lunettes. Hein.
C'est à retenir.
Oui.
De façon plus naturelle, quand on connaît un peu la nature, il y a des plantes saponifères, c'est-à-dire qu'on peut se frotter les mains autour de la plante pour se rincer les mains. Je ne dis pas que ce soit d'une efficacité extraordinaire, mais ça peut très bien fonctionner quand on est dans un désert naturel.
Et moi, j'ai jamais fait de savon, mais en revanche, au marché de Léon, qui a eu lieu au mois de décembre, Vanda de Zadie Gozing en a fait faire aux enfants. Alors pas avec ta recette.
Non. C'était beaucoup, beaucoup plus simple. Elle a pris les copeaux de savon, déjà faits. Elle les a fait diluer par les enfants dans l'eau. Ils les ont malaxés très longuement dans leurs mains. Ça leur a donné la petite boule de savon, voilà.
Totalement. Moi, j'avais déjà essayé de faire du liquide vaisselle. Après, j'avais eu du mal à ce qu'il soit qu'il enlève la graisse. Du coup, c'était un peu compliqué parfois de vraiment faire la vaisselle. Mais c'était trop chouette. Et du coup, je suis preneuse d'une autre recette, si vous en avez une à partager plus tard. Voilà qui clôture notre première partie. Et du coup, on va faire une petite pause musicale.
Et pour la pause musicale, on vous propose, dans la thématique du bien-être, un album qui s'appelle Plantasia et qui a été créé en 1976 par un synthétiseur, Mort Garson. Et en fait, Mort Garson, il a voulu créer de la musique qui pourrait s'apparenter à ce qu'aujourd'hui on appelle de la musique ambiante ou méditatif, quelque chose qui puisse un peu magique, un peu euphorisant, et qui aurait, selon l'album, vocation à apaiser autant les humains que les plantes. Et pour la petite anecdote, l'album a été tiré en édition limitée et vendu chez des floristes à Los Angeles en 76 pour justement calmer ces plantes et s'accorder un moment avec ces plantes de bien-être et d'apaisement. Voilà, là, je vous laisse avec un petit extrait.
Bon retour sur Radio FM+ et sur l'émission Sous le pavé, le récif. On espère que cette pause musicale vous a bien plu et qu'elle a fait vachement de bien à vos plantes. On enchaîne, on a partagé un peu nos tips et nos manières de nous sentir bien. Et autour de cette table, on a des âges et des expériences de vie très variées. Et j'étais curieuse de savoir si au cours de vos vies, vous avez déjà observé des changements, des modes, des évolutions dans la manière d'approcher et de comprendre le sujet du bien-être.
Alors moi, je ferais peut-être un peu un côté plus historique, disons. Ouais. C'est, j'ai au bout des lèvres un mot qui s'appelle, ou qu'on dit « New Age », qui vient des États-Unis. Et donc, ce mot s'est décliné en un mouvement qui s'est développé en particulier aux États-Unis, qui était effectivement un mouvement global de bien-être, c'est-à-dire ce que tu énonçais tout à l'heure, hein, la santé, le mode de vie, etc. Et il y avait aussi un côté un peu recherche de spiritualité. Et en fait, ce mouvement, je me pose la question parce que il a dérivé un tout petit peu vers des sortes de sectes finalement. Donc, il y a une partie du mouvement qui est restée véritablement fidèle à l'origine, et il y a une autre partie qui a dérivé. Et en Europe, on a un peu bénéficié de cette deuxième partie plus que de la première. Donc, je serai très prudente là-dessus. Et par ailleurs, peut-être qu'on le développera un peu plus tard, il y a tout ce qui était mouvement auprès des malades mentaux en particulier, ça qui nous vient de la période de la guerre. Et en particulier, on parlera d'un hôpital qui s'appelle La Borde, dans lequel on a mis en place, au moment de la guerre, le fait de ne pas renvoyer les malades chez eux, mais de faire un lieu de vie finalement avec survie aussi, potager, cuisine, animation, etc. Et ce mouvement a trouvé des échos aussi en Italie avec un psychiatre qui s'appelait Basaglia, qui a eu tendance à lui fermer les hôpitaux psychiatriques quasiment et dire qu'en fait les malades pouvaient très bien être dans la communauté et que la communauté les prenne en charge de façon générale et en proximité. Donc, je dirais qu'il y a une évolution là-dessus qui est de l'individuel au collectif, du collectif à l'individuel, et qui traverse en fait les sociétés.
Bah, merci beaucoup, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris ce concept de New Age hier avec toi. Littéralement, ça veut dire nouvel âge en français. Et du coup, en regardant un peu hier, j'ai même appris que cette mouvance qui était née dans les années 60, elle connaît un regain en ce moment, post-Covid-19. Et que c'est fun fact, en réalité pas si fun que ça, parce que ça peut avoir des dérives sectaires, apparemment. Il y a une étude de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui dit que 40% des signalements reçus en 2020 concernaient des questions justement de santé et de bien-être, que je trouvais assez intéressant et perturbant sur comment on peut instrumentaliser cette question de bien-être dans notre société.
Après, il y a un autre côté qui est que, en fait, bien-être, ça peut être lié à la médecine, oui ou non, en fonction de la génération. C'est vrai que la génération qui est des 60, 70, 80 ans actuellement, surtout les femmes, a bénéficié relativement peu de soins, en fait, qui ne soient pas forcément médicaux, mais de soins. Et un médecin de mes connaissances disait l'autre jour, en fait, pour les femmes qui ont à l'heure actuelle entre 60 et 80 ans, elles peuvent aussi bénéficier d'un certain nombre de choses parce qu'elles n'en ont pas bénéficié jusque-là. C'était sur ma surprise qui était combien de personnes vont chez le kiné, chez la médecine des pieds, etc., etc. Voilà la réponse qu'elle m'a faite et qui m'a un peu surprise. Ouais. Et en même temps, c'est un fait social, tout simplement, ouais, qu'il faut remarquer. Et je suis aussi vigilante sur, justement, ce côté consommation médicale. Ouais. Et pour le bien-être, est-ce que c'est une consommation médicale ou pas, personnelle ou pas, ou est-ce que c'est un ensemble de choses qui traversent la société et qui sont organisées plus en communauté, par exemple, ou en échange communautaire.
Alors pour moi, c'est sur le plan sociétal la différence qu'il y a pu avoir entre le bien-être par rapport à ma maman. Hein, je suis née quand elle avait 22 ans, donc on a 22 ans d'écart. Et moi, l'idée du bien-être ne lui a jamais traversé la tête.
Ouais, mais c'est assez intéressant. Par exemple, je fais de la sociologie et en début d'année, on nous a appris que le confort, c'est une construction sociale. En fait, même là, cette notion de confort, d'avoir une douche chaude, de dormir dans un bon lit et tout, le confort, c'est construit socialement. C'est pas quelque chose dont on a besoin. Je trouve ça assez intéressant. Je te laisse continuer, Daniel.
Bon, alors moi, j'ai eu de graves soucis de santé. J'ai découvert à 40 ans que j'étais maniaco-dépressive. Alors ça a été un grand tollé dans la famille, parce qu'on m'a pas cessé de me répéter dans les premiers temps, « Allez, secoue-toi, t'as jamais été comme ça !» Bon, alors évidemment, en pleine dépression, on m'a conduite, grâce à une collègue de travail, chez un psychiatre de Montpellier renommé, et là, j'ai entendu ce verdict. Alors, je suis tombée des nues, mais j'ai été bien heureuse d'entendre ce diagnostic. J'étais enfin reconnue malade. Bon, j'ai écopé d'un séjour en clinique, pour la première fois. Il m'a soignée. Non, j'ai pas été endormie. Hein. J'ai eu des perfusions. Pendant 2 mois, j'ai pu me régaler. C'est là que j'ai découvert mon âme créative. J'ai fait de la gym le matin. Voilà, je sors en pleine forme. Mais moi, je ne reconnais pas que je suis malade. Donc, au bout d'un an, j'arrête le traitement. Et hop, rebelote. Dépression, clinique, reperfusion. Et j'ai fait ces essais 2 fois avant de comprendre que j'étais vraiment malade. C'est-à-dire maintenant, le mot qu'on emploie, c'est bipolaire. Voilà. Et c'est vrai que les gens qui le sont actuellement n'hésitent pas à parler de leur maladie dans leur entourage.
Déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que on parle de psychiatrie là, et comme champ médical, la psychiatrie elle a énormément évolué ces derniers temps. Les diagnostics, ils ont beaucoup changé. Qu'est-ce qui est considéré comme étant une maladie a changé. Les soins ont beaucoup changé aussi, et le stigmate sociétal autour même de la thérapie a lui aussi beaucoup évolué.
Moi, pour rebondir, ce qui est différent pour ma part, c'est que du coup, moi, je suis arrivée dans une génération où vraiment parler, c'était assez bien vu. Et il n'y a aucun jugement sur faire une thérapie ou aller voir un psychologue. Même au contraire, en fait, plus on prend soin de soi, plus on est bien. Et plus on peut en parler à son entourage et tout. Et ce qui est vraiment du coup différent de la génération d'avant, c'est qu'avant, c'était vraiment mal vu. On était vraiment traité comme tu pouvais dire le mot malade, qui aujourd'hui n'est plus une maladie, en fait. C'est juste chacun et comme il est, et on le voit pas en forme de maladie. Et je trouve que ça permet du coup maintenant aux jeunes de pouvoir plus s'exprimer sur soi et plus pouvoir approfondir et comprendre en fait qui on est. Et il faut continuer dans cette lancée là pour les générations futures.
Après, je trouve ça aussi important, comme Daniel a pu le dire, de pouvoir avoir un diagnostic d'une maladie et de pouvoir mettre des mots sur des choses. J'ai l'impression que c'est le premier pas, plus que simplement conscientiser et ne pas être jugé par son entourage. Bien sûr, c'est évident, en tout cas, c'est vers là qu'on veut tendre, mais aussi pouvoir avoir un diagnostic et donc un traitement adapté, c'est aussi, ça fait partie aussi de la reconnaissance de certaines maladies, et notamment des maladies de la santé mentale, ou qui ont souvent été traitées de folie ou autre, alors que il y a un vrai traitement derrière qui peut aider à vivre. Et je pense notamment aussi à d'autres formes de maladies qui ont été peu diagnostiquées parce que les recherches ont été peu financées. L'exemple incontournable, si je puis dire, c'est quand même la lutte contre le sida et la façon dont le système médical a abandonné les recherches ne les a même pas commencées pendant plusieurs années, et que les personnes qui étaient touchées par cette maladie ont dû aller vers d'autres formes de traitements médicaux, qui se sont notamment beaucoup de centres de santé communautaires se sont créés pour justement prendre en compte ce problème qui n'était pas pris en compte par les institutions. Mais je pense aussi à des exemples plus récents comme l'endométriose chez les femmes qui a des recherches depuis très peu de temps, alors que c'est une maladie qui existe depuis longtemps et qui n'était pas diagnostiquée, contrairement aux recherches sur l'anatomie masculine qui ont des recherches depuis très longtemps. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a des allers-retours entre le système médical, les systèmes plus communautaires, plus qu'on va se créer nous-mêmes avec les gens qui sont autour de nous, et que les deux sont assez complémentaires pour créer quelque chose de pérenne.
On a un peu été vers le médical. Il faudrait peut-être replacer le médical dans le mode de vie, finalement, et que le bien-être, c'est un équilibre, tout simplement, alors qu'il passe par le médical ou pas, ou le médical est intégré dans le mode de vie. Et ça, je crois que c'est la différence à l'heure actuelle. Tu citais le sida. Je crois que en fait c'est la période où il y a eu un changement de mode de vie de ces personnes-là, qui n'étaient pas forcément médicalisées d'ailleurs. Et c'est ça l'intéressant, c'est il y a un croisement à l'heure actuelle, parce que je n'ai pas envie de dire que pour le bien-être, on passe forcément par le médical.
Oui.
Mais il y a un croisement entre les deux.
Oui, totalement. L'idée de que la médecine, c'est plus un outil que l'unique solution pour atteindre ce bien-être. Et d'ailleurs, avec le Récif, on travaille souvent avec Human Santé, qui est un centre de santé communautaire sur Montpellier, et qui justement appuie beaucoup sur cette idée que les professionnels de santé ne sont pas uniquement les professionnels de santé qui sont reconnus par l'État comme les docteurs et tout, et que nous aussi on peut être responsable de notre propre santé, et que la communauté aussi peut être une source en fait de bien-être, de solidarité, de solutions aussi. Et du coup, tout à l'heure aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Anita. Tu parlais aussi de l'importance de poser des mots et un diagnostic sur certaines situations. Et moi, du coup, ça m'a rappelé l'errance médicale on en avait un peu discuté la dernière fois. Qui peut avoir des conséquences assez néfastes et qui peut entraîner une recherche prolongée de réponses et de traitements au prix parfois de sources de souffrances physiques et psychologiques, et parfois même d'une perte de chance face à la maladie si le diagnostic est posé trop tardivement. Et pour info, sur un site officiel du gouvernement, un Français sur trois a personnellement déjà été confronté à l'errance médicale. Et les femmes sont plus à risque par rapport à ce sujet. Et du coup aussi, d'un autre côté, je trouve que c'est aussi important de ne pas trop se fixer sur les diagnostics, parce que les diagnostics, ils ne disent pas toujours la réalité, et ils sont aussi des reflets de la société. Et jusqu'à pas longtemps, l'homosexualité est considérée comme une pathologie. En fait, il faut aussi rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, c'est seulement en 92 qu'elle a retiré l'homosexualité de sa classification des maladies mentales. Donc, d'où l'importance de la santé communautaire et de trouver du sens entre nous sur comment mettre du sens dans la santé.
Alors, je reviens sur les soins psychiatriques. Les consultations, tout dépend du psychiatre. Moi, je sais que j'ai fréquenté le même psychiatre pendant 33 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024, et il me donnait un traitement, évidemment. Mais l'essentiel se passait en parlant. En fait, c'est pratiquement une psychothérapie. Oui, c'était une psychothérapie, mais lui ne me disait absolument rien. En 33 ans, s'il m'a dit 10 phrases, c'est le bout du monde. Tout le reste, c'est moi qui parlais. Et je sortais de là, et tout d'un coup, il me passait des idées éclairs dans la tête qui ont fait peu à peu évoluer mon comportement et qui m'ont fait changer ma manière de vivre. Voilà.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a plein de manières d'être accompagné. Enfin, moi, par exemple, quand je suis allée voir une psy pendant quelques temps, moi, j'ai fait un accompagnement, c'était une thérapie psychocorporelle. Du coup, là, on était beaucoup plus axé sur le corps, sur où tu sens l'anxiété ou la peur ou quoi que ce soit qu'on traverse, et de développer des manières de coper, mais en main en main avec le corps. Et c'était assez intéressant. Eliane, je voyais.
Non, je réagissais à. Je trouve très intéressant que Daniel partage cette expérience, parce qu'on a tous autour de nous des personnes qui souffrent de dépression ou de troubles bipolaires. Et je trouve très courageux, Daniel, que tu fasses ainsi part de ton expérience.
J'enchaîne. Est-ce que vous voyez une différence entre la manière dont vous vous occupez de vous-même aujourd'hui, dont vous prenez soin de vous, et la manière dont vos parents, votre famille ou la société en général vous ont appris à prendre soin de vous? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le soin que vous vous apportez à vous-même ou pas du tout?
Ah bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, oui, énormément.
Ouais.
Bah oui, entre ma mère et moi, ça n'a rien à voir. Ouais.
Notre génération, c'était oui, un peu marche ou crève. Hein.
Oui, exactement, oui.
Qu'est-ce que tu entends par là, Eliane?
Il fallait que ça avance, quoi. Et puis, on ne se posait pas trop de questions sur nous-mêmes. Et je pense qu'on n'a pas élevé nos enfants comme nous, on a été élevés.
Okay.
On a été beaucoup plus à l'écoute. Mais voilà, je me rends compte que tout de suite, je ripe sur les autres. Et
ah
pas
oui.
forcément sur
Ah oui, c'est
sur
super intéressant. Oui. Oui, plus prendre soin. Tu vois plus une évolution de comment tu prends soin des autres et pas trop sur comment tu prends soin de toi-même.
En tout cas, oui. En tout cas, mon éducation fait que j'ai été plus attentive aux autres que ce qu'on a été pour moi, je pense.
Et est-ce que tu le ramènerais à une dimension un peu genrée
Non, pas forcément.
Ok.
Non, 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 non. L'éducation, elle était la même pour mes deux frères et pour moi, je pense.
Moi, je peux partager. Hier, on parlait un peu du flou qui pouvait y avoir entre le bien-être et la beauté ou l'apparence physique du corps. Et moi, j'avoue que ça, c'est un grand truc qui a changé pour moi ces derniers temps, de plus considérer être belle ou être perçue comme étant belle, stéréotypiquement parlant, comme étant un signe de bien-être. Et donc, je parlais de ma relation au poil qui a beaucoup évolué ces derniers temps et que je considère personnellement comme étant beaucoup plus saine pour moi. Parce qu'encore une fois, loin de moi l'idée de pointer du doigt si aller s'épiler ça fait du bien. Si c'est ça qui fait du bien ou se raser, il faut continuer parce que prenez soin de vous. Mais moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien d'arrêter et justement de reconnecter avec des parties de mon corps qui avaient été censurées par avant. Et d'ailleurs, en rentrant hier, je suis passée devant une pharmacie et il y a un truc qui m'avait beaucoup choquée aussi, c'est la pharmacie, c'est censé être aussi un espace de soins, plutôt axé sur le médical, où on vend des médicaments et tout, mais aussi beaucoup de produits anti-rides, anti-vieillissement et tout, comme si la vieillesse était une pathologie. Et ça, je trouve que c'est quand même assez problématique sur les messages que ça envoie à nous, aux individus qui vivent, parce que prendre une ride, c'est pas grave et c'est pas une maladie. Voilà.
Oui, alors prendre une ride, c'est pas grave quand on a ton âge.
Yann, non.
Mais cela dit, je partage avec toi l'idée que, personnellement, en tout cas, je préfère un visage ridé qu'un visage travaillé par la chirurgie esthétique.
C'est vrai qu'il y a la chirurgie esthétique aussi.
Il n'y a pas de doute. Ça ne donne pas forcément de bons résultats.
Trouver une maxime que j'accorderais, c'est... La beauté peut faire peur, cependant la délicatesse n'effarouche pas. J'ai trouvé ça très joli et très dans notre thème.
La beauté peut faire peur.
La délicatesse n'effarouche pas, à la place de la beauté en fait.
C'est très beau, ça vient d'où?
Je ne sais pas. Tu parlais de pharmacie,
oui.
Défendre les pharmaciens, certes, parce que c'est beaucoup de business, mais finalement, est-ce que les pharmaciens qui répondent à du médical, avec la parapharmacie, est-ce que ce pourrait être une façon de prendre les personnes beaucoup plus globalement et non pas juste sur le diagnostic et le médicament adapté?
Oui, tu veux dire que ça offre des solutions plus... collective, quand on ne peut pas avoir du suivi très individuel ou...
Non, ça veut dire que le pharmacien, il est là, il peut être là comme conseil, certes par rapport à la maladie, puisqu'il distribue des médicaments, mais aussi sur des produits de bien-être, justement, qui je ne dis pas qu'ils éviteront les médicaments, mais qui seront véritablement un peu en équilibre avec les médicaments.
Par exemple.
Alors, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que c'est du business très organisé.
Oui.
Voilà. Mais autrement, pourquoi pas c'est peut-être une modif. Il faudrait interviewer des pharmaciens. Des pharmaciennes pour voir en fait comment ils le vivent, mais c'est une modification de leur métier aussi, tout simplement.
Intéressant.
Vous parlez des compléments alimentaires, en tout cas au jardin partagé, on peut aussi parler des plantes médicinales et faire un travail sur les plantes médicinales qui font du bien.
Oui, tout à fait.
On avait ce projet l'année dernière, justement avec le récif et le centre social. On ne l'a pas encore mis en route, mais voilà.
Pour ma part, moi, j'utilise que des huiles essentielles pour ma santé, pour respirer ou pour ma peau. Et je respire tout le temps de l'huile essentielle, je n'utilise jamais de médicaments.
Moi, j'ai envie d'élargir plantes médicinales, ne pas rester justement dans ce côté médical, mais toute plante aromatique finalement, parce que ça va. On parle de compléments alimentaires, mais ça va dans la cuisine tout simplement, certaines plantes, etc. Donc, ce projet-là, il me semble que ça peut être plus large que véritablement les plantes médicinales qui, je dirais aussi, ne touchent qu'une partie de notre public.
Oui, c'est vrai. Alors que les plantes aromatiques peuvent faire du bien, comme tu dis, et touchent tout le monde.
Il faut reprendre notre projet de plantes aromatiques et faire intervenir, par exemple, les enfants des écoles pour remplir de grandes jardinières avec ces plantes-là. Ça serait peut-être plus commode que de les planter dans nos carrés.
C'est chouette, du jardin. C'est chouette de sortir d'une émission de radio avec un ce projet-là.
Oui, tout à fait. Du coup, si ce projet vous intéresse, chers auditeuristes, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où on partagera les avancées. Merci à toutes pour ces échanges très riches. Je voulais aussi rappeler qu'au Récif, on travaille sur un petit projet sur la santé communautaire, notamment avec Human Santé, qui se passera en avril. On ne va pas dire plus, parce que pour l'instant, on ne veut pas trop s'engager. Mais si ces sujets-là vous intéressent, voilà, restez attentifs et attentives. Maintenant, on va passer à la rubrique coup de cœur. Anita.
Alors, pour cette rubrique coup de cœur, je suis allée un petit peu chercher dans la filmographie qu'est-ce qui pouvait parler de médecine et de bien-être. Et donc, j'ai deux films à vous conseiller. Le premier, c'est Annie Colère, qui est un film qui est sorti en 2022, réalisé par Blandine Lenoir, et qui suit Annie, qui, en 1974, cherche à avorter. Et la loi n'est pas encore passée. Simone Veil est loin à l'Assemblée. Et elle vit dans une petite commune de France où le système médical ne permet pas d'avorter. Et donc, elle va rejoindre le réseau des MLM. Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et c'est des femmes qui ne sont pas issues du milieu médical qui vont l'aider à avorter. Et après cet événement-là, elle va elle-même faire partie de ce réseau, d'abord en donnant des flyers, puis en organisant des réunions, puis en elle-même accompagnant des femmes qui cherchent à avorter. Et puis pour finir par elle-même aider une femme à avorter. Et en fait, ce film, là où je le trouvais hyper intéressant, c'est que à un moment donné où le système médical a abandonné clairement ces femmes-là, et ce savoir-faire qui est le fait de d'avorter, d'accompagner une femme dans ce parcours-là, il a été transmis par les femmes elles-mêmes entre elles, et elles se sont réappropriées ce savoir-faire qui a permis, une fois que l'avortement a été institutionnalisé dans la loi, évidemment c'est reparti, enfin c'est redevenu une responsabilité du système médical et ça a été institutionnalisé. Pour autant, ces mouvements militants de réappropriation du corps et de ce savoir ont perduré, notamment à travers le planning familial, qui reste toujours une association d'éducation populaire autour de l'éducation sexuelle et de l'éducation au corps en général, très présente en France. Et le deuxième exemple que j'avais pour vous, c'était un film de Jean-Claude Berny sur Frantz Fanon, qui est sorti l'année dernière, et qui raconte comment ce psychiatre originaire de Martinique, qui avait fait des études en Bretagne, se retrouve en 1953 à gérer un service de psychiatrie à Blida-Joinville, en Algérie, qui est alors toujours colonisée par la France. Et il se retrouve à devoir gérer plusieurs services de psychiatrie. Et il découvre, en tout cas, il constate et à la fois le racisme présent entre les différents services de psychiatrie. Il se rend compte aussi beaucoup que les méthodes ne permettent pas aux patients et aux patientes de se réapproprier, de conscientiser, d'avoir des solutions pérennes à leur pathologie, et des fois ce qui n'en est pas, qui sont plus de l'enfermement parce que c'était des opposants politiques, etc. Mais en tout cas sur les personnes qui ont des troubles mentaux, en tout cas qui ont des pathologies. L'idée de Frantz Fanon, c'est de leur proposer un accompagnement moins médicalisé, moins d'enfermement, et de plus aller vers quelque chose où on fait sortir les gens, où on les fait discuter, où on les fait faire des choses de dessin, de peinture, de randonnée, mais en tout cas d'aller chercher vers un accompagnement plus global et pas seulement médicalisé de la personne. Et voilà, ces deux films sont hyper intéressants et sont des manières de montrer comment le bien-être peut être collectif comment le système médical et la santé communautaire on dépasserait l'union des liens qui permet aussi de faire avancer la recherche, qui permettent aussi de prendre plus en considération des personnes qui ont été discriminées à travers les époques. Voilà.
Merci beaucoup Anita. En vrai, c'était des super descriptions. Moi, je vais regarder les deux films cette semaine. On passe à la rubrique actualité de nos associations, du pavé, du récif et de nos assos partenaires. Je te laisse.
Je ferai juste un rappel, c'est que nous avons au parc Clémenceau, tous les dimanches matins, Philippe, qui nous propose de faire du tai chi à 9h30. Donc vous pouvez nous rejoindre et on passe un moment ensemble à se dégourdir. Et il faudra lui demander quel est le mot qu'il adapterait à nos exercices, puisque c'est un fin connaisseur du tai chi. Et une autre activité qui peut être proposée, c'est nous rappelons que la permanence au jardin partagé a lieu le mardi et le vendredi à partir de 15h, et tout le monde est bienvenu pour travailler, regarder, parler du jardin ou au jardin.
Merci beaucoup. Et nous, au Récif, on vous retrouve tous les premiers mercredis du mois pour organiser tous les ateliers du Récif. Et les troisièmes vendredis du mois, du soir, à partir de 18h au Récif, pour faire des ateliers tous ensemble, et c'est ouvert à tous au public. Super, merci beaucoup. C'était Sous le pavé, le Récif. On vous retrouve pour notre quatrième épisode qui sera diffusé le 18 février. Et aussi, je tenais à vous remercier toutes très chaleureusement d'avoir fait ça ensemble. C'était une discussion très intéressante. Et merci à Radio FM+, de nous avoir accueillis aujourd'hui.
Merci.
Thank you.